Les masterclass de France Culture. Aujourd'hui, Adrien Goetz avec Xavier Mauduit.
Masterclass France Culture à Blois, au rendez-vous de l'histoire. Bonjour Adrien Goetz.
Bonjour Xavier Mauduit.
Comment va Pénélope ?
Pénélope est toujours en forme. Elle est conservatrice de musée, elle ne sait où donner de la tête, elle résout des énigmes avec son éternel fiancé qui s'appelle Vendrille. Et ils sont allés dernièrement passer quelques jours chez le président de la République au fort de Brégançon. Elle avait commencé sa carrière à Bayeux, hein, à Bayeux, avec la fameuse tapisserie qui n'est pas une tapisserie mais une broderie. Et à chaque fois, on la contrarie, c'est-à-dire qu'elle est spécialiste de l'Égypte tardive, comme l'on dit. On disait autrefois l'Égypte copte, l'Égypte des souverains lagides, et on la nomme toujours dans des lieux où elle est un peu incompétente. C'est un principe du ministère de la Culture, les conservateurs sont recrutés soit par des collectivités, soit nommés par l'État, et c'est toujours là où elle est le moins efficace, en apparence, bien sûr, qu'elle arrive. Hein, voilà. Et c'est le sujet d'une série de romans policiers.
Ça commence toujours par Intrigue A.
Intrigue A.
Et avec Pénélope, cette héroïne, Adrien Goetz, vous êtes membre de l'Institut, historien d'art et romancier. Mais dites donc, dans romancier, ici c'est du policier, c'est la démarche de l'historien. L'historien, c'est l'enquêteur à la recherche d'indices.
Bien sûr. Ma jeune Pénélope, quand elle se trouve face à un cadavre au château de Versailles, elle applique des méthodes historiques. Elle va regarder, relever des indices. Elle se comporte devant le cadavre comme l'historienne de l'art qu'elle est se comporterait devant un tableau, en retournant la toile, en regardant les étiquettes qui sont au dos, en vérifiant s'il n'y a pas de poussière entre le châssis et la toile. La méthode de l'historien et de l'historien de l'art, et la méthode de la conservatrice de musée qui est Pénélope, c'est une méthode presque criminelle. Elle n'est pas du tout dépaysée.
C'est ça. Elle trouve parfois des corps pas très vivants, des cadavres, mais quelque part, c'est la même démarche au moment de faire l'autopsie d'une œuvre d'art.
C'est vraiment la méthode historique qu'on peut jouer à décaler, comme si j'étais un médecin qui écrirait des romans qui se passeraient avec à l'arrière-plan la vie des urgences et des cliniques.
Moi, je suis très sensible à cette démarche-là, Adrien Goetz, de réfléchir à comment on peut en arriver à parler d'un sujet qui parfois pourrait paraître trop sérieux et trop compliqué à aborder. Par exemple, les aventures de Pénélope et le roman policier, c'est cela aussi ce plaisir, c'est la transmission.
Oui, il faut d'abord, je pense, beaucoup lire, tous les passionnés d'histoire que nous sommes, on accumule des lectures, et puis il y a le moment où il faut refermer tous les livres, inventer quelque chose. C'est comme ça que j'avais procédé pour cette petite ville de Bayeux, que j'aime beaucoup, au cœur du Bessin, avec ce trésor qui est depuis la nuit des temps, depuis les années qui ont suivi 1066, la broderie de la conquête, la tapisserie. C'est d'abord peut-être une émotion d'enfance pour moi. Je me souviens d'y être allé avec ma classe de cinquième, je crois.
Vous êtes de Caen ?
Oui, à Caen, il y a des trésors. Il y a le musée, il y a le musée de Normandie, il y a le château, il y a la salle de l'échiquier. Donc le collégien et le lycéen que j'étais baignaient dans l'histoire. Et à Bayeux, c'est tout à fait ça aussi. J'étais vraiment déjà fasciné à cette époque. Et c'est comme ça que, des années après, j'ai eu envie d'en faire le sujet d'un roman qui repose sur une constatation toute simple, c'est que cette broderie n'a pas la fin. Il nous manque, c'est un film bien construit, comme un roman policier, c'est-à-dire qu'il y a ce personnage qui s'appelle Harold, avec sa moustache qui paraît sympathique, qui est un compagnon accueilli par Guillaume, qui paraît être la figure positive de la première partie de la broderie. Et puis vers la moitié, c'est le traître, il a prêté serment, mais il se fait proclamer roi à Westminster, et Guillaume choisit de s'embarquer pour aller conquérir ce qu'il estime être son royaume. Et donc là, on voit très bien dans quel sens ça va, sauf que la pellicule du film se déchire et il nous manque les derniers mètres. On ne sait pas même quand ils ont disparu. Et on imagine que peut-être ça serait le couronnement de Guillaume, le bâtard devenu le conquérant à Londres. Mais en fait, on n'en sait rien. Et c'est sur ce manque, cette lacune, cette absence que j'ai commencé à rêver.
Intrigue à l'anglaise, hein, c'est cette première aventure de Pénélope. La tapisserie de Baillieu, vous avez raison de le rappeler, c'est une broderie. Le musée lui-même est sensationnel parce que il y a tout un aspect pédagogique. Et on parle beaucoup de transmission ici. Les musées sont là pour ça. Avant de comprendre la tapisserie, on nous prend par la main, on nous explique. Et une fois qu'on la découvre, alors là, tout devient absolument limpide. On voit même les détails. Tiens, ici, une petite grenouille.
Oui, plus les petites scènes pornographiques qui sont dans les marges, voilà, qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer ni à comprendre. C'est un objet qui peut faire rêver quand on est au collège et au lycée, mais c'est aussi quelque chose qui est susceptible de servir de support pour vous, Xavier, qui jonglez avec tous les types d'histoires, pour raconter l'histoire à chaque fois différemment. C'est-à-dire que c'est l'histoire bataille, bien sûr, c'est Hastings, donc là, il y a une histoire tout à fait traditionnelle, en quelque sorte, c'est une histoire purement événementielle. Il y a l'histoire de l'objet. Comment a-t-il traversé la Révolution française? Comment Napoléon l'utilise en faisant venir cette tapisserie au Louvre pour montrer qu'envahir l'Angleterre, c'est une chose possible parce que ça s'est déjà fait? Comment l'objet intéresse les nazis? Comment au moment où von Scholtitz décide de ne pas brûler Paris, il a pourtant reçu l'ordre de le faire à condition de sauver la tapisserie de Bayeux qui est dans une caisse et qui doit être exfiltrée avant qu'on ne mette le feu à Paris. Donc il y a une histoire contemporaine de cet objet. Et puis il y a une lecture qui est aussi bien une histoire quotidienne, l'histoire des objets, l'histoire, comment il y a cette scène du festin qui est extraordinaire avec les premières brochettes de l'histoire qui apparaissent, l'histoire du boire et du manger, l'histoire des usages, l'histoire de la vie quotidienne qui est parfaitement là, l'histoire des mentalités aussi, puisque cette affaire du serment prêté puis du serment trahi, l'organisation de l'armée, une histoire technique, on voit abattre les arbres, on voit les vaisseaux être construits. Donc il y a plusieurs lectures historiques et puis il y a la lecture de l'historien de l'art qui souvent passe en dernier, qu'on a tendance à oublier parce que la tapisserie de Bayeux, c'est d'abord un objet d'histoire. Ça a d'abord été un document, un monument au sens de Prosper Mérimée qui l'a inscrite sur une liste de monuments historiques en 1840 et puis un monument qui appartenait aux collections de la bibliothèque, pas aux collections du musée. Aujourd'hui, on a un regard muséal et on peut regarder d'abord l'extraordinaire œuvre d'art, qu'est cette chose inouïe, tellement fragile et tellement présente. On a sous nos yeux ce document du XIe siècle, et quand on le regarde comme une œuvre, on voit les petits chevaux aux jambes bleues, on voit les arbres qui ont des silhouettes dessinées comme des ornements, et qui nous rappellent ces ornements des églises romanes, et là, le regard change à nouveau. Donc c'est un même objet, et plusieurs manières de l'envisager.
Et puis plusieurs regards, bien sûr. Il y a le jeune Adrien du lycée Malherbe à Caen qui voit la tapisserie de Bayeux. Et puis, il y a Adrien Goetz, membre de l'Institut, l'Académie des Beaux-Arts, qui voit lui aussi cette tapisserie de Bayeux. Et puis, il y a le romancier qui s'empare de la tapisserie de Bayeux.
Il y a des sujets de polémique. Est-ce que réellement l'objet est en état de traverser la Manche aujourd'hui, puisque le British Museum aimerait l'exposer? La conclusion était plutôt négative, hein, pour des raisons qui ne sont pas politiques, qui pourraient l'être, mais c'est que ça reste extrêmement fragile, que la tapisserie est surveillée, elle a été examinée très récemment, et la conclusion, c'est on ne va pas la prêter à Londres, et pourtant, on aurait pu l'installer à côté des frises du Parthénon que la Grèce réclame. Ça aurait été bien.
Ça aurait été
le défilé des cavaliers.
Voilà, des défilés mis en parallèle.
Mais on a peur, justement, que les Britanniques ne nous la rendent pas, comme les Anglais ont fait pour les frises du Parthénon et comme le Louvre le fait pour la frise des Ergastines, qui est un fragment de tout cela. À moins qu'on ne fasse une circulation des œuvres d'art plus astucieuse et on mettrait en dépôt au musée Baron Gérard de Bayeux, petit musée qui peut-être manque encore un peu de visiteurs. C'est pas la tapisserie, c'est le musée Baron Gérard. On mettrait en dépôt quelques marbres du Parthénon provenant du British Museum à qui on, et vous voyez, et ainsi, on abandonnerait peut-être ces éternels débats insolubles sur les restitutions pour mettre en avant l'idée d'une circulation planétaire d'œuvres d'art dans un monde parvenu à l'âge adulte.
Adrien Goetz,
j'ai parfois de mauvaises idées.
Non, ce sont des mauvaises idées, mais c'est ça, moi, qui me fascine. C'est que, pour en arriver à écrire ces aventures de Pénélope, ces différentes intrigues, en partant du jeune homme passionné d'art, c'est qu'il y a l'entre-deux. C'est-à-dire que pour réussir à écrire une aventure, c'est le succès aussi que vous connaissez parce qu'il s'appuie sur cela, c'est qu'il y a ce travail solide en béton armé derrière et une fine connaissance de ce qu'est l'histoire de l'art pour pouvoir la restituer de manière simple en accompagnant par la main le lecteur, la lectrice.
Mais c'est le danger de tous ceux qui écrivent des romans historiques, c'est de faire un roman construit avec des fiches. Et ça, à mon avis, ça ne donne pas toujours de bons romans. Voilà. Il y a ici à Blois un prix du roman historique qui couronne chaque année de très bons romans, et c'est un des critères du jury, que ça n'ait pas trop l'air d'être le roman où l'auteur vous fourgue ses fiches parce que il a fait une enquête très précise et qu'il a envie de tout dire. Je pense au contraire qu'il faut prendre toutes les libertés possibles avec la réalité. J'avais écrit un roman intitulé « La dormeuse de Naples », encore sur une œuvre d'art disparue qui nous manque, le tableau qu'Ingres avait peint en symétrie de la grande odalisque, cette dormeuse de Naples. Pour en raconter l'histoire, pour en inventer l'histoire, j'ai pris des libertés absolues avec ce que je savais parfaitement de la vie d'Ingres. J'ai fait une interversion chronologique, tout ça. Alors à la fin, je m'en explique, mais j'avais besoin, pour des nécessités de récit, de roman, de fiction, de fermer tous mes livres et de dire à mes étudiants qu'ils avaient peut-être plus sérieux à lire que des romans. Voilà, que c'est tout autre chose.
C'est tout autre chose, et vous faites partie du jury du prix du roman historique de Blois, et j'en fais partie aussi. L'honnêteté intellectuelle nécessite qu'on le dise, parce qu'il y a cette réflexion sur ce qu'est un roman, et surtout, moi je le vis ainsi, sur la transmission de l'histoire, et le goût de l'histoire à transmettre au plus grand nombre. Ce goût-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les musées, il a tendance à se réduire à quelques grands sites qui sont absolument majestueux et qui doivent être visités, je pense au Louvre ou au musée d'Orsay, mais qui se déclinent sur l'ensemble du territoire.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits musées. Il y a des musées de proximité absolument partout. Il n'y a que le ministère de la Culture qui imagine qu'il faut faire venir les grands chefs-d'œuvre parisiens dans ce qu'on appelait autrefois la province. C'est Malraux qui a dit le mot hideux de province aura disparu. Bon, il y a toujours cette idée qui reste que seul le Louvre, Orsay et le Centre Pompidou peuvent irriguer par des expositions et des prêts ces malheureux musées qui, en réalité, moi j'y vais beaucoup, sont très visités, avec des gens de tous âges, avec des gens de tout style aussi, qui sont, on le voit très bien, si vous allez au nocturne du musée de Montpellier, par exemple, vous voyez très bien qu'il y a tous les styles de visiteurs, que c'est plus du tout un marqueur social comme ça pouvait l'être au temps des géniales analyses de Pierre Bourdieu. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en 35 ou 40 ans. Aujourd'hui, le musée, c'est quelque chose qui est gratuit pour les jeunes, qui est très ouvert, qui organise énormément de choses, même des cours de yoga. Vous pouvez, vous, Xavier, aller pratiquer un peu le yoga, et même au Louvre, dans la salle Khorsabad, avec votre matelas que vous déroulez, vous vous installez. Voilà. Donc le musée, c'est au fond l'accès le plus simple. Il y a des proclamations de récents ministres de la Culture qui disent qu'il faut que le musée aille vers les territoires de la ruralité. Ils y sont déjà. Regardez, on parlait de Bayeux, c'est vraiment un territoire rural, le Bessin aux environs. Bon, et les musées de Bayeux sont tout à fait fréquentés et on peut y apprendre beaucoup de choses. Moi, quand j'étais dans cette ville de Caen au lycée, on a toujours aujourd'hui à Caen des accès à la culture qui sont très variés, qui n'ont rien d'intimidant. Le musée, je pense, a aujourd'hui complètement cessé d'être intimidant. Et partout en France, le collège, le lycée est à proximité d'un musée où on peut apprendre pas uniquement de l'histoire de l'art. Dans une salle de musée, on peut faire de l'histoire économique, on peut faire de l'histoire tout court, on peut aussi apprendre des pratiques artistiques. Et tout ça à un âge où c'est extrêmement précieux. On peut écouter de la musique, voilà. Donc le musée est une porte magnifique et qui aujourd'hui est totalement ouverte.
On peut faire un peu de pilates ou de yoga, hein, donc intéressant à savoir.
Voilà, je pensais pour vous. Oui.
Mes musées en liberté, Adrien Goetz. Ça, c'est ces promenades artistiques en France que vous proposez. C'est publié chez Grasset, 120 promenades, avec cette réflexion sur ce qu'est un musée. Ce qu'est un musée, effectivement, de province, et on peut mettre des guillemets ou les enlever. Peu importe, ces musées qui sont partout sur le territoire et qui ont un charme particulier, parce qu'ils ont chacun leur identité.
C'est le trésor de la France. Et ce trésor nous appartient et nous est parfaitement ouvert et accessible. C'est ça que j'ai voulu dire dans ce livre, qui n'est pas une réflexion sur ce que doit être un musée, ce n'est pas une énième théorie sur le musée, c'est un récit à la première personne, écrit par un voyageur qui, depuis 10 ans, va dans les musées, y retourne, regarde, fait des photos, prend des notes et donne un témoignage. C'est aussi une manière de faire de l'histoire de l'art. On peut faire de l'histoire de l'art dans les livres ou sur Wikipédia, mais on doit d'abord aller voir les œuvres, voir leur réalité, leur matérialité, et aller dans les musées. Et l'idéal, ça serait qu'un jour, les ministres de l'Éducation nationale tirent de cela toutes les conséquences, en faisant en sorte que l'histoire de l'art ou l'histoire des arts soit enseignée par des professeurs formés à cette discipline. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de professeurs formidables qui sont des professeurs d'histoire, des professeurs de lettres, lettres modernes, lettres classiques, qui, en plus de leur travail, vont enseigner l'histoire des arts et assurent des cours qui sont remarquables. Hein. Bon. Mais pendant ce temps-là, moi j'ai des étudiants d'histoire de l'art qui font des masters, qui vont parfois jusqu'à la thèse et qui au fond n'ont pas cette possibilité d'aller enseigner la discipline dans laquelle ils ont fait leurs études. Je crois que ça serait une vraie richesse qu'en s'appuyant partout en France sur les musées, on puisse pratiquer une histoire de l'art au sens le plus large du mot, c'est-à-dire cette histoire de la culture finalement. Qui manque encore, mais on y est presque. Mais on vous expliquera au ministère de l'Éducation que créer un CAPES, une agrégation en histoire de l'art, ça va coûter telle somme, que c'est pas possible, qu'on peut pas le faire aujourd'hui. Moi, je pense que on pourrait. On est, vous comme moi, des agrégés d'histoire. On a passé des épreuves de géographie. Pourquoi est-ce que, à la place du commentaire de cartes si redoutable, vous vous en souvenez, Xavier?
Je m'en souviens.
Voilà, à l'oral de l'agrégation en histoire. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire un commentaire d'œuvres d'art à la place? Et on aurait ainsi, pour le même tarif, des professeurs d'histoire géo et des professeurs d'histoire, histoire de l'art. Et après tout, les collèges, les lycées ont besoin des deux.
Ça s'inscrit complètement dans la réflexion sur l'analyse des images. Nous sommes dans une civilisation qui transpire d'images, nous avons beaucoup d'images. Analyser l'image contemporaine, la photographie, c'est une chose, mais l'histoire de l'art, ça participe aussi de la compréhension d'une image.
Mais l'histoire de l'art se nourrit, s'est nourrie de l'arrivée de la photographie, c'est ce que Malraux a théorisé dans le musée imaginaire, etc. C'était jusqu'à la dernière déclaration de Malraux, voyant arriver ce qu'il appelle le monde de l'audiovisuel. C'était les années 70, l'audiovisuel. Aujourd'hui, l'image se trouve sur les réseaux sociaux. On vit dans un monde rythmé par les publications sur Instagram, et là, les musées sont partout. Les œuvres des musées sont partout et ceux qui diffusent ces images ne sont pas nécessairement des professionnels, des diplômés, des conservateurs, des gens qui appartiendraient à une direction de la communication de tel ou tel musée, c'est tout le monde. Et ça change le regard, ça change les choses. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde d'images, on dirait on a beaucoup perdu, parce qu'après tout, remplacer le regard critique du professionnel par le like, c'est l'appauvrir, je suis pas sûr. Je trouve que on a un univers foisonnant d'images en désordre, où chacun peut se construire sa culture, et qui ne peut que faire progresser notre regard sur l'art, les civilisations et les musées.
Avec un élément, moi, qui m'interpelle toujours sur la chance que nous avons aujourd'hui, avec tout ce que Internet, l'informatique nous propose, c'est l'accès à l'image. C'est vrai que par le passé, pour voir une œuvre, fallait aller sur place ou regarder dans un livre avec une reproduction plus ou moins heureuse. Aujourd'hui, on l'a rapidement sur notre écran. Bon, c'est vrai que la lumière vient de derrière, alors que normalement, la lumière se projette sur l'œuvre. Mais c'est déjà pas mal. En revanche,
on n'est pas obligé de faire des selfies. Non, on peut aller voir des détails.
Mais on peut faire plein de choses. Et surtout, l'expérience d'aller au musée, ça ne se remplace pas. Un ordinateur peut pas nous le donner.
C'est ça.
Peut pas nous donner le parquet qui craque, le tableau qui est exposé à côté et la taille d'une œuvre. L'expérience d'aller au musée, ça c'est quelque chose d'unique.
Il faut aller au Louvre-Lens, dans la Galerie du Temps, qui est parfaitement gratuite. Tout le monde y entre. Et là, il y a des œuvres choisies, des collections du musée du Louvre. Et vous pouvez tourner autour, vous pouvez vous approcher, vous faites des rapprochements qui sont les vôtres aussi. Je me souviens d'avoir croisé dans la Galerie du Temps du Louvre-Lens un commissaire-priseur. Et lui, il avait l'idée qu'il fallait tout changer et qu'il allait reclasser ce qu'on nous montrait par ordre de prix. Pourquoi pas ? C'est-à-dire qu'il ne l'aurait sans doute pas fait dans un musée traditionnel, mais dans cette Galerie du Temps du Louvre-Lens, avec ses murs qui sont comme des miroirs un peu transparents, on peut jouer avec les œuvres, on peut les regarder, mais on peut aussi imaginer plein de choses. Et il se passe, évidemment, d'autres choses dans notre accès, dans notre rapport à tous ces, à toutes ces œuvres qui, alors il est vrai, ont été choisies avec grand soin par des conservateurs du Louvre extrêmement compétents. Mais le Louvre-Lens, aujourd'hui, ben, c'est devenu la tête de réseau d'une série de musées de la région qui inventent une autre façon de faire des expositions. Ils vont emprunter des œuvres intéressantes dans des musées de proximité qui peuvent être en Belgique, au Luxembourg. On n'est plus aujourd'hui dans l'échelle où on veut construire d'immenses expos internationales, où on fait venir des chefs-d'œuvre qui viennent de Washington ou de Canberra avec une...
Un bilan carbone.
Et c'est ça.
Terrible.
Une dépense de kérosène monstrueuse. On peut aussi choisir un sujet et utiliser des œuvres qui ne sont pas très loin. Donc c'est tout ça que j'ai voulu raconter dans ce livre. C'est la façon dont les musées sont en train de devenir autre chose.
Mais musées en liberté, Adrien Goetz, vous êtes quel type de visiteur? Parce qu'il y a plein de types de visiteurs. Il y a ceux qui restent des heures et des heures dans le musée à regarder chaque œuvre. Il y a ceux qui y passent une heure et qui vont voir quelque chose. Vous êtes quel type de visiteur?
J'ai voulu, dans ce livre, être totalement partial. Considérer mes lecteurs comme des invités, des amis à qui je dis allez voir au musée Petier de Limoux un tableau de Marie Petier que je trouve extraordinaire et puis je vais pas leur faire un cours sur ce qu'est l'histoire du musée Petier de Limoux, je veux juste donner envie d'y entrer. Et moi comme visiteur, eh bien il y a différents types de musées. Il y a ceux que je connais bien, où je peux passer pour revoir une chose qui m'a marqué. Et puis, il y a la gourmandise de la découverte dans des musées que je connais pas ou qui viennent de se rénover. Dans ce livre, il y a le musée Goya de Castres, par exemple, qui était un musée un peu vieillot, un peu une esthétique James Bond années 70, les spots vissés dans le plafond, des choses. Tout a été refait et c'est une redécouverte formidable. Tous ces musées se métamorphosent constamment. Pensez que les musées, comme l'a déclaré récemment cette année une ministre de la Culture, les musées sont sous cloche. J'étais stupéfait de lire ça. C'est une erreur. Regardez le nombre de chantiers de rénovation de musées partout en France. Le musée Ingres de Montauban, qui est devenu aujourd'hui le musée Ingres Bourdelle, a été métamorphosé et très intelligemment. Il y a une collection de dessins d'Ingres formidable. On en voyait un petit peu chaque été. Bon, là, on en voit beaucoup plus dans des meubles à plan qui permettent de s'approprier les choses. Chacun vient tirer un de ces grands formats verticaux qui ont été inventés par un architecte Bac en Guyenne qui avait beaucoup de talent. Et on va choisir un dessin. Et là, on peut passer un quart d'heure tout seul, tranquille, devant un dessin d'Ingres dans un décor qui est l'ancien évêché de Montauban, un très beau bâtiment du XVIIe qui a été refait à la perfection et qui repose sur une salle médiévale, la salle du Prince Noir, où désormais il y a un rendez-vous d'art contemporain chaque été. Il y a eu Anne Poirier, il y a eu Jean-Michel Autoniel, et les visiteurs peuvent avoir accès à une œuvre d'aujourd'hui qui accompagnent leur parcours dans le musée, et c'est conçu avec beaucoup d'esprit par la conservatrice Florence Viguier-Dutheil, qui a conduit ce chantier énorme en 3 ou 4 ans, pas plus. Donc il y a non seulement une actualité, des musées qui sont pas sous cloche et qui bougent, mais aussi de grands professionnels là-dedans, qu'on met pas toujours sur le devant de la scène. Et j'ai cité dans ce livre quelques noms de conservateurs dont j'estime qu'ils ont vraiment remodelé l'établissement dont ils avaient la responsabilité. Pour moi, ce sont des héros. Vous parlez de la transmission. Je crois que ces conservateurs, ces médiateurs, ces guides conférenciers qui travaillent dans les musées, tous ceux qui sont là en permanence, sont des gens mal payés, hein, qui sont quand même encore pires que nous, les enseignants, ou presque. Bon. Jouent un rôle qui est un rôle clé. Et ça, il faut vraiment insister là-dessus.
Ah oui, parce que ici, c'est une aventure très incarnée. Vous avez raison, Adrien Goetz, de le souligner. Hein, les conservateurs, les oui. Guides conférenciers. Mais quel plaisir d'être conduit par un guide conférencier qui nous fait voir ce qu'on ne verrait pas en tant que visiteur seul.
C'est ça. Et ce que Wikipédia, aussi intelligemment nourri soit Wikipédia, ne nous donne pas non plus. Voilà. Donc c'est cet accès direct avec l'idée qu'on va rencontrer des professionnels qui sont là pour nous dire des choses, nous expliquer aussi qu'on peut aller lire un fragment de l'Iliade, se lancer dans la lecture d'Ovide, que ça raconte des histoires et que ça c'est aussi une forme d'émerveillement dont le musée est une porte, est une clé facile encore une fois.
Et puis dans cette politique de relecture de ces musées qui vieillissaient, qui s'endormaient. Il y a l'idée de conserver leur histoire. Parce qu'un musée, ça a une histoire. Un musée des Beaux-Arts du 19e siècle ne doit pas être transformé parce qu'il a son charme, mais il est possible de faire des choses. Je pense au musée de Rouen, le musée des Beaux-Arts de Rouen, qui est exceptionnel. Le parquet qui craque comme ça dans ces salles magnifiques, c'est toujours là.
Et il a eu un directeur qui est aujourd'hui le président du musée d'Orsay, Sylvain Amic, qui a inventé plein de choses. Qui a inventé dans le parcours des collections permanentes, des salles thématiques qui sont comme de petites expositions, jamais ennuyeuses, sur des sujets comme la musique à l'époque de Boieldieu, les abbayes normandes à l'âge romantique. Et à chaque fois, le parcours de visite habituel est renouvelé et transformé. Et il a brisé la distinction entre l'expo qu'il faut avoir vu absolument et les collections permanentes dont on se dit qu'on les a déjà vues. Et là, vous voyez, c'est une manière de rebattre les cartes. Vous parliez de ces musées qui ont une histoire. Le musée de Picardie à Amiens, c'est un conservateur, Pierre Stepanov, qui est en train de lui redonner son âme du 19e siècle. C'est le premier grand musée du Second Empire, créé pour être un musée. Et Pierre Stepanov va chercher en réserve des peintures roulées, qui parfois sont roulées et oubliées en réserve et un peu chancies, un peu moisies, depuis plus longtemps qu'elles n'ont été exposées au 19e siècle. Il faut les dérouler, il faut les restaurer, il faut les tendre sur de nouveaux châssis et puis les remettre en simèse dans le grand salon central du musée d'Amiens. Et pour ça, il faut trouver des mécènes, il faut aussi que des entreprises locales s'engagent, c'est très important. Et tout cela, c'est vraiment l'actualité vibrante, vivante des musées d'aujourd'hui en France.
Chaque visite est une aventure, en fait.
Moi, je trouve. Regardez ce qui s'est passé à Blois. Blois avait son château, Blois n'avait pas réellement un musée des Beaux-Arts. Et puis est arrivée l'époque où, à Blois, Sylvain Bélanger a repris les choses, historien et historien de l'art du 19e siècle. Le château a été restauré durant cette période. On a compris tout ce qui datait du 19e. On a cessé de croire que la chambre d'Henri III est là comme elle était au temps d'Henri III, puisqu'on sait que c'était une caserne, que tout cela a été réinventé, que l'architecte Duban a repris les choses sous le Second Empire, et le parcours de la visite a complètement changé. Et puis, il n'y avait pas de musée. Et on a créé, à cette époque-là, dans les années 1980, fin 80, une galerie d'inspiration 19e. Il y a une très joli tableau d'Ingres, par exemple, qui n'existait pas réellement au 19e siècle, mais qui prolonge ce musée d'architecture qu'est le château de Blois, où le visiteur est parfaitement mis au courant de quand ça date. C'est ça aussi, qu'on lui fasse comprendre que ça n'est pas à cet endroit que Henri III a dit « il est plus grand mort que vivant devant le cadavre du duc de Guise », mais que c'est une réinvention, que cette réinvention se nourrit des peintures de Paul Delaroche qui ont représenté la même scène, que ça a donné un des premiers, au début du cinéma, un film. C'est accompagné de la première musique de film composée par Camille Saint-Saëns. Donc vous allez aujourd'hui dans ces salles à Blois, vous apprenez à avoir un regard critique, à avoir une distance historique vis-à-vis des choses, et puis vous faites de l'histoire. Vous ne vous contentez pas d'annoncer un cours d'histoire. Vous êtes témoin. Voilà, ça c'est le travail aussi d'un conservateur qui a remodelé son musée. J'en ai cité quelques-uns comme ça, Michel Hilaire au musée de Montpellier par exemple. Le musée de Montpellier, c'est un parcours, mais c'est aussi une évocation de thèmes très séduisants. Le thème de la ruine par exemple, qui est très en valeur dans les collections. C'est l'appel à des artistes de la région aussi, Vincent Bioulès, Guy de Rougemont, qui ont été des artistes qui sont venus nourrir les collections. C'est un hommage à Soulages. Il y a le musée Soulages de Rodez, mais il y a aussi les salles Soulages du musée de Montpellier, dont il a contrôlé la luminosité, l'artiste est venu. Tout ça, c'est une histoire. L'histoire des musées nous raconte beaucoup de choses de nous-mêmes et de ces héros un peu méconnus qui ont fait les musées.
Et puis avec beaucoup d'humour, hein. Parce que moi je pense au musée d'Agen, le musée des Beaux-Arts d'Agen, et je prends votre livre, hein, Adrien Goetz, Mes musées en liberté, c'est des formes de notices, hein, c'est presque un guide. Le noyau est dans une vitrine discrète, voilà comment ça commence, ils ont mis un noyau à Agen.
Ben oui, parce que il y a des salles d'archéologie, et l'archéologie témoigne qu'à l'époque gallo-romaine, on n'est pas complètement sûr qu'on traitait le pruneau de cette façon-là déjà à Agen, mais il y a des noyaux, et donc il y a un conservateur un peu facétieux qui a fait un cartel pour dater, commenter, enfin voilà. Donc le noyau est une sorte, alors c'est pas une œuvre, c'est un artefact, mais c'est un morceau d'histoire. Et aujourd'hui à Agen, il y a un conservateur tout à fait formidable, Adrien Hanfdaak, qui a entrepris d'étudier sa collection. Il y avait un nombre important de tableaux de Goya, qui faisait la fierté du musée d'Agen, un tableau montrant une montgolfière qui faisait même la couverture du catalogue. Il a eu l'idée de faire une expo très critique en invitant des spécialistes de Goya, venus d'ici et là, qui sont venus regarder les tableaux en confrontant les Goya d'Agen, de Goya qui venaient d'Espagne ou pas forcément, enfin bon, pour remettre en question les attributions. Et ça, c'est assez courageux. Les Goya du musée d'Agen étaient parfaitement suivis, tracés. On savait qu'ils sortaient de l'atelier de Goya. Mais à l'époque, tout ce qui sort de chez Goya est un Goya. Aujourd'hui, on se pose plus de questions, on fait des observations scientifiques, on regarde le grain de la toile, on regarde la couche picturale, et très courageusement, ce conservateur a désattribué plusieurs des chefs-d'œuvre de son musée. Ça n'a sans doute pas été si facile, c'est un musée municipal. On peut avoir envie d'avoir un des plus célèbres Goya dans la jolie ville d'Agen. Et le catalogue de cette expo, que j'avais trouvé génial, est paru après. Alors, un désastre pour les éditeurs, vous voyez ce que ça représente. Les catalogues, normalement, c'est ce qui fait vivre l'édition. Et là, le catalogue, paru après la fin de l'expo, bénéficie de tous les acquis scientifiques de l'exposition. C'est-à-dire qu'on n'a pas déplacé des œuvres pour rien, ou pour faire du chiffre. On les a déplacées pour qu'elles puissent être confrontées et qu'on puisse faire progresser la connaissance, faire progresser la science, qu'on puisse en déduire des attributions plus précises.
Ça n'a pas été l'apocalypse à Agen, donc ça
exactement.
A été...
Exactement.
Oui, oui. Avec une aventure humaine, Adrien Goetz.
L'apocalypse, c'est plutôt à Angers.
À Angers, voilà.
À Angers, on a ce cycle merveilleux de l'apocalypse. Il y a beaucoup de musées à Angers. Là encore, si vous naissez du côté d'Angers, ben vous avez les collections Turpin de Crissé, la galerie David d'Angers, le théâtre d'Angers avec son plafond peint par le Nebveu, avec ce P qu'on prononce là-bas.
Ah, on le prononce ?
Oui. Et le Nebveu, vous le connaissez tous, c'est celui qui a peint le plafond de l'Opéra de Paris. C'est un ami de Charles Garnier. C'est ce plafond qui a été recouvert par le chef-d'œuvre de Chagall.
Donc on le connaît sans le connaître.
On le connaît sans le connaître. Moi je pense que l'œuvre de Chagall est tellement importante qu'on devrait la mettre en restauration, la démonter pour la préserver, bien évidemment. Et on découvrirait ainsi le temps de quelques photos et ce que donnait la salle du Palais Garnier quand elle avait ce plafond choisi par Garnier et peint par le Nebveu. Donc tout ça, c'est les ressources géniales de ces musées partout dans les régions. Il y a toujours des grands dépôts du Louvre, bien sûr, partout. Et le Louvre joue ce rôle parfaitement depuis le début. Donc ça, c'est fondateur. Mais si vous aimez Pérugin, vous pouvez avoir envie d'aller à Caen voir le magnifique Pérugin du musée de Caen, puis d'aller à Lyon voir le Pérugin du musée de Lyon. De pas obligé de passer par Paris, pas forcément.
Mais c'est ça, on a le mariage à Caen.
Exactement.
Le mariage à la Vierge à Caen, avec ici un élément, moi, qui m'interpelle toujours dans cette transmission, et ce plaisir de l'histoire et de la découverte, c'est l'aspect très humain, parce que aller dans ces musées, ça veut dire se déplacer, ça veut dire prendre le train, ça veut dire aller et parfois être confronté à une porte fermée parce qu'on s'est planté sur les horaires, ou alors parfois, vous racontez, Adrien Goetz, ce petit musée de Tatiou. Alors là, on est toujours en Normandie,
oui,
ce grand plaisir de la Normandie. Il était magnifique, ce musée, sans doute.
Mais je ne le saurais jamais. J'étais allé avec des amis du côté de, pas très loin de La Hague, vous voyez, dans ce lieu où il y a des paysages.
Et c'est le Nord-Cotentin.
Voilà, c'est notre Irlande. Bon. Et en revenant, en fait, c'était un mariage. Et donc le retour, tout le monde était un peu fatigué dans une espèce de vieille camionnette qu'un ami avait louée, je sais pas comment. Et puis on voit le panneau Tatiou, musée maritime. Alors là, je dis stop, nous nous arrêtons, je veux voir le musée maritime de Tatiou. Il y avait la voiture suivante, c'était d'autres amis avec de grands conservateurs. Il y avait, on peut le dire, il y avait Laurent Lebon, par exemple, l'actuel président du Centre Pompidou. Et eux se sont arrêtés. Et ils ont visité, parce que mes amis m'ont découragé. Moi, ils m'ont dit, Adrien, tu nous ennuies, ça suffit, des musées, tu en as assez vu comme ça. Ça sera la prochaine fois. Et c'était un samedi. Le lundi, le musée de Tatiou a été frappé par la foudre et a brûlé. y compris des petites marines de Théodore Gudin, des petites merveilles qui étaient là. Et donc, moralité, quand un musée passe à portée, eh ben, il faut y aller. Voilà. Faut pas hésiter. Il faut dire aux gens qui vous accompagnent, oui, vous avez vu déjà beaucoup de musées, mais celui-là, vous serez heureux de l'avoir vu. Donc, c'est ce plaisir-là que j'ai voulu. Et puis, cette frustration, bien sûr, que je voulais raconter. C'est pour ça que c'est un livre à la première personne.
Mais oui, c'est à la première personne. Et puis, à travers cette première personne, on découvre aussi alors l'histoire de l'art, l'histoire de ces lieux, parce que c'est très important. Par exemple, les dépôts du Louvre ont sauvé des œuvres aussi, au sens où sont restées là-bas, alors que à Paris, bah, elles ne seraient peut-être plus là.
Oui, et puis alors bien sûr, mais il y a aussi des œuvres qu'on n'a jamais rendues.
Ben oui, c'est ça.
Alors voilà, c'est-à-dire que après Waterloo, il a bien fallu faire des restitutions. Ce Louvre qui s'appelait le Musée Napoléon, qui était magnifique et qui enthousiasmait Stendhal, s'est trouvé privé de chefs-d'œuvre qui étaient à Paris à cette époque, qu'il a fallu rendre. Stendhal va faire une dernière visite à la Madone à la chaise de Raphaël, qui repart pour Florence et qui est aujourd'hui au Palais Pitti à Florence. Donc on a beaucoup rendu, on n'a pas rendu alors les noces de Cana, bien sûr, parce que c'est trop grand, hein, vous le savez tous, ça ne passe pas la porte, donc bon, ça reste au Louvre. Mais il y avait eu des échanges, Venise avait reçu un très beau Lebrun, enfin voilà, des choses ça avait été fait vaguement selon certaines règles de l'époque. Et puis on avait laissé au Louvre beaucoup des tableaux qui appartenaient à ce qu'on appelait les primitives écoles de l'Italie, c'est-à-dire des choses qui, à l'époque, n'étaient que documentaires et qui, aujourd'hui, ben, sont Cimabue, que le Louvre restaure en ce moment, la Maesta, la stigmatisation de Saint-François d'Assise du Louvre. Enfin, aujourd'hui, c'est des chefs-d'œuvre. À l'époque, les Italiens nous les ont laissés. D'accord. Et puis, il y a tout ce qui était dans les musées en région, le réseau des premiers musées que Chaptal avait eu l'idée de créer. Et là, ben, on n'a pas vraiment rendu tout. Voilà, on a très peu rendu, en réalité. Donc, c'est-à-dire que beaucoup de chefs-d'œuvre sont encore là.
Merci, ces petits musées.
Oui, parce qu'au fond, ils sont très bien là. Moi, je pense que restituer à Sienne tous les primitifs siennois, ça n'aurait aucun sens. Il est évident que beaucoup de... Alors, je ne vais pas me faire uniquement des amis si je dis ça, mais je crois qu'il n'y a aucune raison que ces tableaux qui sont sortis de Sienne, parfois... Alors, parfois violemment, parfois frauduleusement, parfois par des circuits commerciaux de la fin du 19e qui aujourd'hui seraient scandaleux. Bon, ces tableaux qui sont aujourd'hui au Metropolitan, à New York, au Louvre, à Londres, à la National Gallery, sont les ambassadeurs de la culture siennoise, de la Renaissance italienne, de la ville de Sienne même, et qui les représentent au fond. Quand on voit un tableau magnifique venu d'une petite église de Pise qui est à Chantilly dans le musée Condé, ce sont les collections du duc d'Aumale. Est-ce qu'il faudrait vraiment replacer un jour ce tableau à Pise? On ne peut pas le faire puisqu'à Chantilly rien ne doit bouger. C'est le testament du duc d'Aumale en faveur de l'Institut de France. Mais on pourrait aujourd'hui, au lieu de réclamer, au lieu d'imaginer qu'on va réclamer des œuvres, penser qu'on peut, je ne sais pas, mettre... On aborde là un sujet délicat que je ne voulais pas du tout aborder.
Non, mais bon. C'est pour ça que Adrien Goetz, je vous laisse y
oui.
aller.
Ben, mon idée est toute simple. Alors, vous allez me dire que j'admets toutes les critiques. J'aimerais bien que on a restitué des trésors au Bénin, qui était au musée du Quai Branly. On a permis que ces œuvres ne soient plus couvertes par l'inaliénabilité des collections. C'est légitime, parce qu'effectivement, mon amie Marie-Cécile Zinzou me dit pourquoi l'art de mon pays, le Bénin, est-il visible à Londres et à Paris et pas dans mon pays, le Bénin. Ça, je trouve que c'est parfaitement légitime et on doit l'entendre. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis là-bas aussi en dépôt, eh bien, une peinture siennoise du Louvre, un Picasso du Musée national d'art moderne qui aurait quitté le Centre Pompidou ou les réserves du Centre Pompidou pour être montré au Bénin et peut-être pas forcément jusqu'à la fin des temps. On peut penser à une circulation et on peut aussi vouloir découvrir au musée des cultures qui nous sont éloignées et qui sont pas celles de notre peuple, de notre tradition, de notre pays.
D'autant qu'avec Picasso, on a une vraie histoire de l'art qui est basée sur cet échange entre les arts venus d'Afrique et puis ce que pouvait produire Picasso.
Ces arts lointains nous sont devenus proches et au fond appartiennent à un patrimoine de l'humanité. Voilà, et on doit les comprendre comme des œuvres d'art, mais aussi comme des objets rituels qui ont été utilisés. Enfin, il y a aussi plusieurs lectures devant ses œuvres. Donc ça, c'est l'avenir du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Qu'est-ce que tout ça va donner dans 50 ans? Voilà.
Avec ce paradoxe, hein, et Adrien Goetz, vous le soulignez bien, ce patrimoine, c'est le nôtre, c'est un patrimoine qui est national, mais au-delà du national, parce que c'est de l'art et ça appartient à l'humanité. Et dans le même temps, ce sont des identités ou des fiertés très locales, et on le voit nettement avec ces musées. Il y a des fiertés locales, et pour certains musées, c'est vraiment en écho alors avec le grand peintre du lieu ou avec la production, la création d'un lieu.
Bien sûr, quand pour le musée des Beaux-Arts d'Orléans, Olivia Voisin, conservatrice, va préempter le pastel de Perronneau qui représente Desfriche, le créateur du musée d'Orléans, effectivement, elle enrichit une collection de pastels qui est déjà une des premières de France, mais elle fait revenir le créateur du musée dans les murs du musée. C'est une dimension très locale, mais qui a permis au musée de faire aussi énormément de communication. Vous allez, le musée d'Orléans va bientôt entrer dans une phase de rénovation, mais quand vous y suis allé le mois dernier à la librairie boutique, c'est toujours important de regarder ça, de voir ce qu'on nous propose. Eh bien, il y a des gommes et des crayons à l'effigie de Desfriche. Vous pouvez aller acheter des sachets de thé Desfriche. Bon, et au fond, tant mieux, c'est très bien. Le musée ne fait pas que cela. Le musée des Beaux-Arts d'Orléans s'est ouvert à un sculpteur d'aujourd'hui qui est Johan Cretten et qui a mis des œuvres dans le musée et dans la ville. C'est-à-dire qu'il y a un parcours qui traverse le musée, mais qui était devant la cathédrale, dans le jardin public. Enfin voilà, c'est aussi cette vision, rien n'exclut rien. Je pense pas qu'il y ait aujourd'hui de musée totalement municipal et qui ne serait que de la gloriole et qui serait uniquement le campanilisme à la française. L'Italie s'est dégagée de ce campanilisme. C'était aussi un des vrais sujets pour les musées italiens. Le musée à Limoux, il y a le musée Petier. Est-ce qu'on se glorifie de la famille Petier à Limoux? Je crois pas tant que ça. En revanche, on pourrait mettre l'accent sur cette Marie Petier, d'une famille d'artistes, qui a été peintre, très importante, très intéressante, qui a fait un chef-d'œuvre, je pense, les Repasseuses, c'est un tableau magnifique, un peu avant les Repasseuses de Degas, donc vraiment intéressant. Et pourquoi est-ce que le musée Petier ne deviendrait pas le musée Marie Petier? Parce que vous avez vu dans mon livre, il n'y a pas beaucoup de musées qui ont des noms d'artistes femmes.
On est bien d'accord.
Hein, voilà. Donc là aussi, peut-être que ces choses vont évoluer, que le musée Marmottan-Monet, qui appartient à mon Académie des Beaux-Arts, sera un jour, je ne sais pas quand, le musée Marmottan-Monet-Morisot, parce que c'est le plus grand fonds de Berthe Morisot. Voilà. Ça fait partie aussi des questions actuelles que pose le monde des musées.
Avec des musées à découvrir, hein, et c'est vraiment en cela que ces 120 promenades artistiques en France, mes musées en liberté, juste engageant, on a envie d'y aller, le scriptorium d'Avranches. Là, on parlait du local Belmont-Saint-Michel, il est juste à côté, on le voit là, il est là. Et c'est vrai qu'il y a des initiatives qui sont extrêmement enthousiasmantes.
C'est vrai, les manuscrits du Mont-Saint-Michel sont exposés non pas au Mont-Saint-Michel, mais à Avranches. C'est un trésor avec ces petites maisons de granit, avec le jardin municipal qui ouvre une vue extraordinaire quand il y a la tempête. C'est des tableaux sur le Mont-Saint-Michel et sur la baie. Et puis, il y a cette boîte au trésor où sont conservés les manuscrits du Mont-Saint-Michel. Et on les voit de 3 mois en 3 mois, puisque c'est des œuvres graphiques. On ne peut pas les montrer très longtemps. Donc, si vous y repassez chaque été, vous verrez toujours des choses différentes. Et ça fait partie des plus beaux trésors du Moyen-Âge qu'on peut voir en France. Et le musée est parfaitement dans l'idée d'une bibliothèque. C'est une idée aussi intéressante. Les premiers musées ont été des bibliothèques-musées. Et elles peuvent l'être à nouveau. En Alsace, dans la petite ville de Célestat, il y a la bibliothèque de Beatus Rhenanus, humaniste rhénan. On a tous ses livres, bon. Et il y a un musée qui vient d'être construit, inauguré il y a 2 ou 3 ans seulement. Et c'est une architecture formidable. Je crois que le maire a endetté sa commune pour 10 ans ou peut-être plus. Moi, j'étais là le jour de l'inauguration. Il y avait le ministre des Finances. Il y avait Bruno Le Maire qui utilise...
L'ancien.
Voilà, l'ancien... Oui, c'est vrai qu'il y a un ministre des Finances aujourd'hui. Après tout... c'est de l'argent bien placé. Non, je trouve que construire un nouveau musée pour la bibliothèque de Beatus Rhenanus au cœur de l'Alsace, dans une toute petite ville, Célestat, c'est quand même pas très grand, et en faire un lieu qui devient international, une bibliothèque-musée, c'est tout à fait... À Carpentras. À Carpentras, il y a aussi la vieille bibliothèque qui est devenue un musée où on peut voir des peintures... une peinture d'Évariste de Valerne, qui était un des meilleurs amis de Degas, ben c'est là qu'on peut le découvrir tranquillement. Et puis, ça sert toujours de bibliothèque, parce que vous pouvez aller lire des BD, vous installer, comme dans n'importe quelle bibliothèque municipale, partout en France. Donc, bibliothèque et musée, main dans la main, c'est vraiment le socle de tout ce qu'on peut apprendre et transmettre aux nouvelles générations.
Mais oui, c'est ça, on y est vraiment, Adrien Goetz, au cœur de cette réflexion sur la transmission. Et quelle place pour l'Institut dans cette histoire-là? Vous êtes membre de l'Institut, de l'Académie des Beaux-Arts. C'est quoi d'ailleurs, là, on peut rappeler hein, ce qu'est cette Académie?
L'Académie des Beaux-Arts retrouve, je crois, en ce moment, sa vraie raison d'être. C'est-à-dire conserver un patrimoine qui est très intéressant. L'Académie des Beaux-Arts possède la Villa Effrussi, le musée Marmottan, la maison de Claude Monet à Giverny, qui est très visitée, qui est aujourd'hui... Bon. Et l'Académie des Beaux-Arts a des revenus, ainsi, grâce à ses lieux patrimoniaux notamment, que l'Académie utilise désormais pour aider un grand nombre de jeunes artistes. Et depuis 5 ou 6 ans, on fait rénover des lieux pour en faire des résidences d'artistes. On en aura peut-être bientôt 25-26 et l'objectif c'est d'arriver à en avoir une trentaine de lieux de résidence où de jeunes artistes dans une maison à la campagne aux environs de Paris dans un village qui s'appelle Char, à Boulogne-Billancourt dans la bibliothèque et Villa Marmottan
dont vous vous occupez.
Je suis devenu le directeur et on fait d'immenses travaux pour rénover ce lieu magnifique qui était très abîmé. On va loger dans ce qui était le logement de fonction du directeur. Eh oui. Trois artistes qui sont magnifiquement logés, qui vont avoir une bourse de l'Académie des Beaux-Arts et qui de septembre à juin, chaque année, c'est la deuxième promotion, là, vont pouvoir travailler. Et on loge aussi deux chercheurs qui travaillent sur la période qui intéressait Paul Marmottan, c'est-à-dire notre cher 19e siècle, le début du 19e, l'Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet. Et donc là, on a une communauté dans un bel endroit, avec un jardin, chercheurs et artistes, que l'Académie encourage et va aider. Et puis, ça attire des donations. Par exemple, la designeuse et créatrice de mobilier Constance Guisset nous a offert tout le mobilier de la maison. Donc les artistes sont dans un mobilier qui est lui-même une œuvre d'art et qui peut-être prolonge l'intérêt de Paul Marmottan pour les arts décoratifs, pour l'histoire de l'ameublement, enfin l'histoire et la philosophie de l'ameublement. Donc tout ça, on le fait. Voilà. Donc c'est vraiment, je crois, l'Académie, ça n'est pas uniquement quelques beaux habits brodés qu'on porte de temps en temps, c'est aussi un travail, une action et la volonté de jouer un rôle, aussi auprès des pouvoirs publics. Et parfois, on est entendu. Parfois, on est suivi, parce que l'Académie des Beaux-Arts n'est pas un organisme qui dépendrait d'un ministère. C'est à part. Il y a juste le protecteur qui est le chef de l'État. Ce qui nous permet, de temps en temps, de faire des petites remarques. C'est pas le droit de remontrance des parlements de l'Ancien Régime, je vais pas jusque-là. Mais il arrive que nous soyons écoutés, et c'est aussi un rôle. On a fait un petit communiqué à propos des vitraux de Notre-Dame de Paris. Voilà. Enfin, c'est des choses qui sont des sujets d'actualité. Puis chaque année, des prix sont donnés dans toutes les disciplines, le dessin, la sculpture, la musique, hein, évidemment. Il y a un prix de chant choral qui avait été créé par Liliane Bettencourt et qui est un prix de l'Académie. Il y a un prix d'architecture de Jacques Rougerie, vous savez, l'architecte du fond des océans, une sorte de héros de Jules Verne, mais que je vois tous les mercredis. Bon, c'est vraiment... une action dans le siècle, c'est pas uniquement une vieille chose du passé qui serait figée dans ses traditions.
Et puis dans le choix des membres élus UES,
oui.
Et dans les différentes formes d'art aussi.
Ben là, on vient d'élire Marjane Satrapi, par exemple, qui rejoint l'Académie. On a élu Catherine Meurice, c'était l'arrivée de la bande dessinée sous la coupole. Et j'ai eu la chance de prononcer le discours ce jour-là, et j'étais... presque aussi émue qu'elle. Bon, Catherine Meurice, c'est la Benjamine de l'Institut de France, c'est-à-dire non seulement de l'Académie des Beaux-Arts, mais des 5 académies, Académie des Sciences, Académie Française, Académie des Inscriptions, Académie des Sciences Morales. Elle est la plus jeune. Voilà. Alors, évidemment, que va-t-elle devenir? C'est une grande question. Parce que quand elle aura 96 ans, je le lui dis souvent, hein, parce que l'Académie, le président de la République ne peut pas dissoudre les académies. Ça, c'est pas possible. On est élu et puis on va jusqu'à la fin. Bon. C'est aussi une force. C'est aussi une force qui nous permet d'être totalement indépendants.
Oui, indépendant, mais malgré tout, le président de la République demeure le protecteur de ces académies. Et quand ce protecteur décide, vous l'avez évoqué, Adrien Gutz, de changer les vitraux de Notre-Dame, ces vitraux, Viollet-le-Duc, cet art du 19e siècle, en mettant des créations. Et c'est vrai que le débat qui a déjà existé par le passé ressurgit. L'académie prend parti, mais parce qu'il y a tant et tant de réflexions avec ce savoir-là que tous les membres...
On commence par auditionner, par écouter des gens qui peuvent venir en parler dans nos séances du mercredi. Et puis, il ne s'agit pas de dire, surtout pas, de vitraux contemporains dans les églises. Certainement pas. Il y a à Aigues-Mortes des vitraux magnifiques. Il y a les vitraux de la cathédrale de Nevers qui sont des splendeurs. Il y a évidemment les vitraux de Soulages à Conques. Donc, il y a de grands exemples de vitraux qui sont merveilleux et qui sont des vitraux qui ont été des commandes assez récentes finalement. Là, c'est différent. Là, c'est l'idée que Viollet-le-Duc avait conçu des grisailles pour tempérer les peintures des chapelles et que c'est une œuvre d'art complète. C'est-à-dire que depuis les grilles en fer forgé jusqu'aux reliures des évangélières et des... Viollet-le-Duc a conçu Notre-Dame comme une œuvre et que si on touche à quelque chose qui, de surcroît, n'a pas été touché par l'incendie, qui a été simplement nettoyé, qui a pas... Voilà. Pourquoi vouloir? Et surtout, il y a un programme qui est prévu figuratif. Donc, on va avoir une sorte de cacophonie, là. On aura les peintures de l'époque de Viollet-le-Duc qui vont entrer en concurrence avec du figuratif d'aujourd'hui. Puis, quand on regarde la liste des artistes qui candidatent, il y a Daniel Buren, grand artiste figuratif bien connu pour ça. Donc, bon, on sait pas trop où vont les choses. Et puis, surtout, il y a quand même une législation. C'est un monument historique classé. Donc, il y a une commission nationale des monuments historiques qui a voté à l'unanimité contre cette idée. Pas du tout parce que ça serait une commission réactionnaire. Simplement pour dire que Viollet-le-Duc est un architecte, créateur, majeur, très important, et pas un pasticheur ou un faiseur de néo-médiéval du 19e siècle qu'on pourrait balayer d'un trait de plume. Pour la flèche, on a choisi, finalement, après des années de 2 ans de valses hésitations, le choix s'est porté sur la restitution à l'identique de la flèche de Viollet-le-Duc, qui est un chef-d'œuvre. Hein, qui est absolument admirable, et Gustave Eiffel avait dans sa bibliothèque le dictionnaire de Viollet-le-Duc, et il y a là une cohérence, c'est l'image de Paris, c'est la silhouette, la flèche de Notre-Dame, on peut pas la modifier comme ça, on peut pas non plus retrouver une flèche d'avant la Révolution, parce qu'on n'a pas les documents qui permettraient de le faire, donc gardons Viollet-le-Duc.
Et puis en plus, avec Viollet-le-Duc, on a tous les documents, on a le mode d'emploi, donc on sait refaire, et c'est bien pratique. Donc le protecteur des assemblées, académies, pardon, vous écoutera avec ce lieu de vacances du président. Il n'était pas là quand vous l'avez visité, Brégançon.
Ah oui, j'ai eu la chance de séjourner au fort de Brégançon pour écrire un roman policier. J'y étais allé un peu par hasard. En fait, c'est ouvert à la visite. Hein, on peut, en s'adressant au syndicat d'initiative de Bormes-les-Mimosas, par petits groupes de 15 personnes 3 fois par jour, accéder à ce petit morceau de paradis qui vous donnerait même à vous l'envie de devenir président de la République. Parce que c'est pas somptueux. Vous auriez horreur de quelque chose de trop somptueux. Là, c'est d'une sobriété absolue. Il y a un jardin qui est un parc botanique absolument splendide. Et j'ai exprimé le souhait d'y revenir en me disant je peux peut-être faire un roman policier. Et bizarrement, on m'y a autorisé. Voilà, j'ai pas posé la question directement au président, j'ai écrit une lettre, voilà. C'est là-bas que j'ai écrit mon intrigue à Brégançon, où Pénélope, qui travaille à ce moment-là au Mobilier National, a mission de remeubler le lieu, d'enlever le mobilier de ces grands styles historiques français, qui sont le style Bernadette Chirac, le style... Voilà, bon, donc on enlève tout ça et on invente un style de mobilier d'aujourd'hui pour Brégançon. Et puis, Vendry l'accompagne parce qu'il aime bien faire des longueurs de piscine et c'est un sportif. Et là, il y a une piscine. Donc, voilà. Bon. Ça, c'est le début du roman jusqu'au moment où, évidemment, un drame se produit, mais je ne veux pas être plus long. Je ne veux pas raconter l'histoire.
Non, il ne faut pas raconter l'histoire.
Mon intrigue à Brégançon.
Ce que je peux dire, moi, à partir de cette intrigue à Brégançon, c'est que, diantre, que de mystère, des choix du général de Gaulle à la résistance, la prise de Brégançon en 44, hein, c'est une épopée. Et là
c'est
aussi.
C'est le capitaine Deleuze.
Le capitaine Deleuze avec François Deleuze.
Je suis allé chercher ses descendants qui m'ont parlé de lui. Oui, oui.
Ah, c'est incroyable.
Donc c'est, et puis on comprend pas pourquoi le général de Gaulle a estimé que la République devait posséder une résidence de bord de mer. Là, on n'a toujours pas l'explication.
Il se baignait pas.
Ben, il n'y a jamais de photo du général de Gaulle et de madame de Gaulle en maillot de bain. Là, là. Il n'y est jamais. Vous connaissez De Gaulle à la plage, cette série. Bon, ça n'existe pas. Il n'y est jamais retourné. Il y a passé une nuit et ensuite il n'a jamais utilisé ce lieu. En revanche, il y a eu des réceptions diplomatiques, il y a eu le président Poutine qui est venu, avec un bouquet de fleurs. Bon, il s'est passé des choses à Brégançon et j'avais envie d'imaginer, mais avec des vérités que je suis allé trouver sur place.
Voilà. Oui. Ça, c'est. Bah, c'est le procédé que vous appliquez, Adrien Goetz, avec ses intrigues. Intrigues à l'anglaise, la tapisserie de Bayeux à Versailles, un peu de mafia chinoise. À Venise, bien sûr, où on croise un Rembrandt. À Giverny, avec Monet, bien sûr, mais pas seulement. En Égypte, où coucou le pharaon, coucou Bonaparte. Et puis, à Brégançon, avec le capitaine Deleuze, la résistance. Nous sommes au rendez-vous de l'histoire à Blois. Pourquoi pas une intrigue à Blois ? Parce que vous l'avez dit, il y a tant à faire avec ce château.
C'est très romanesque. Puis il y a la magie en face du château. Hein. Il y a cette maison de la magie. Le château de Blois est un tissu d'histoire. C'est évident. Donc un jour, c'est une très bonne idée, une intrigue à Blois me permettrait peut-être de revenir au rendez-vous de l'histoire, voilà, pour raconter tout ça. Il faut que je trouve à quelle époque,
me propose de mettre un S, de les mettre au pluriel, oui. Parce que dans toutes vos intrigues, il y a plusieurs temps qui se croisent.
C'est une archéologie, c'est une superposition de strates, et c'est ça qu'on découvre toujours quand on va dans un de ces lieux. Même Giverny, la maison de Monet, pourquoi cet étang au Nymphéa, quand est-il creusé? Même durant la vie de Monet, Giverny se transforme. Il y a plusieurs moments, il y a plusieurs significations qu'il donne à cette petite maison. Est-ce que réellement les impressionnistes sont les interprètes de la modernité de leur époque? Sans doute, bien sûr. Mais il y a quand même un côté petit Trianon à Giverny. Il y a un côté douceur de vivre. Est-ce qu'il n'y a pas un retour au XVIIIe siècle dans tout cela? Quand vous regardez les tableaux de Renoir, est-ce que c'est pas aussi un retour à Fragonard, à Boucher, à Watteau? Est-ce que les impressionnistes, au fond, ne regardaient pas aussi vers l'histoire et vers le passé, et vers ces images subliminales qu'on a dans la tête?
Adrien Goetz, mes musées en liberté, 120 promenades artistiques en France. Parallèle à toutes ces intrigues, il y a, c'est du jeu, donc du vécu que vous racontez, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi un appel vibrant, et on le sent, à le Louvre, c'est parfait, et surtout vous, parce que le Louvre, vous le portez là en tant que journaliste. Hein.
Bien sûr, j'ai la chance de publier depuis 10 ans Grande Galerie, le journal du Louvre, avec la confiance de la présidente Laurence Descartes.
Mais à côté du Louvre, il y a tous ces musées, et je vous le disais, c'est vraiment un appel. Allez-y, le plaisir que l'on ressent dans ces musées longtemps laissés en marge, parce que les œuvres, elles sont là et au plus près des gens.
Et il n'y a pas que le Louvre dans la vie.
Voilà, il n'y a pas que le Louvre dans la vie. C'est une jolie conclusion. Adrien Goetz, mes musées en liberté, c'est 120 promenades artistiques. Il y en a d'autres, hein. Il n'y en a pas que 120. On pourrait en rajouter plein. Hein. Le
Bien
musée
sûr.
De Vire, vous me le mettrez. Hein.
Ah oui, 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 vous avez raison. Vous êtes de Vire, vous.
Oui, je suis de Vire, en Normandie. Merci beaucoup, Adrien
Merci,
Goetz.
Merci, Xavier Mauduit.
Merci à vous toutes et à vous tous.
C'était la masterclass d'Adrien Goetz avec Xavier Mauduit, enregistrée au rendez-vous de l'histoire de Blois. Coordination Henri Leblanc, attaché de production Lily Cornert, prise de son Sébastien Huel et Victoria Asper, chargée de production Franck Malabry, réalisation Manouchak Fachaï.